France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Ce soir, c'est en grande conversation d'ailleurs, François Reynard du Nouvel Obs, Patrice Moyan de West France, Cécilia Gabizon de TX Magellan et Arnaud Benedetti de la Revue Politique et Parlementaire. Un grand ouf de soulagement donc en Ukraine. Joe Biden a formellement signé le chèque de 61 milliards de dollars cet après-midi pour l'Ukraine, voté par le Congrès ce week-end.
Je m'assure que la livraison commence immédiatement. Dans les prochaines heures, littéralement quelques heures, nous allons commencer à envoyer à l'Ukraine des munitions de défense aérienne, de l'artillerie, des systèmes de missiles et des véhicules blindés. Vous savez, ce volet d'aide est littéralement un investissement, non seulement dans la sécurité de l'Ukraine, mais aussi dans la sécurité de l'Europe et dans notre propre sécurité.
Voilà, Joe Biden dit dans les prochaines heures, on apprend que les États-Unis ont d'ores et déjà envoyé à l'Ukraine des missiles longue portée. C'était prêt, c'est ça, Patrice Moyon?
Oui, ils attendaient tout simplement le feu vert. Oui. Et cette aide, il faut la considérer comme vitale pour l'Ukraine aujourd'hui, parce que aujourd'hui, on était à un point de rupture. C'est vraiment le mot qu'il faut employer, un risque de déferlement de la Russie sur l'Ukraine, parce que les troupes ukrainiennes sont épuisées. Il faut voir dans quelles conditions ils ont passé l'hiver. Les soldats n'ont pas été relevés parfois sur le front. Il y a pas assez de munitions et les Russes poussent leur avantage, donc ils visent les infrastructures ukrainiennes. Donc cette aide occidentale va permettre déjà à l'Ukraine de tenir avant même de pouvoir penser à une offensive ou une contre-offensive.
Et on va évidemment écouter le merci qui en dit long forcément de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien.
Aujourd'hui, nous avons reçu la décision que nous attendions, le soutien américain pour lequel nous nous sommes tant battus. Il s'agit d'un ensemble de mesures très importantes qui seront ressenties par nos soldats sur la ligne de front, ainsi que par nos villes et villages qui souffrent de la terreur russe. C'est une solution qui permettra de sauver des vies.
Alors, c'est une solution qui permettra de sauver des vies. Une des questions aussi, c'est de savoir si ça n'arrive pas un peu tard et si les 6 mois de doute, de tergiversation des Américains n'auront pas laissé des traces.
Oui, et je reviens là-dessus justement. Les gens, quand on parlait de l'Europe il y a 10 minutes, quand les gens pensent au Parlement européen, ils ont le sentiment d'un truc où ça marche jamais, où c'est compliqué, où les gens s'engueulent, etc. Ben, regardez les États-Unis, regardez ce qui vient de se passer aux États-Unis. Il y a quand même une petite poignée d'irréductibles Trumpistes dingos qui ont tout bloqué, et il a fallu que parce que donc il y a une des deux chambres, c'est la Chambre des représentants, l'équivalent de la Chambre des députés, où là il y a le leader de la droite du Parti républicain qui est lui-même plutôt trumpiste, mais de manière modérée, qui essayait de faire passer ça, et il y avait une petite poignée, mais 10% de gens qui menaçaient de le faire sauter. Et il a fallu une configuration extraordinaire qui est que Trump soit tellement emmêlé dans ces procès qui, de guerre lasse, ils disent allez-y, lâchez là-dessus, quoi. Il y avait un côté comme ça. Donc c'est pour dire que encore une fois, je fais le rapport avec l'Europe. On dit que l'Europe ça marche pas, les États-Unis ça marche pas non plus. Il y a pas beaucoup de pays qui marchent, mais heureusement finalement ils ont quand même cette immense puissance industrielle et qui fait que cette immense donne un armement à l'Ukraine qui est nécessaire. En face de l'Ukraine, là, Patrice Moyon parlait du déferlement russe, il faut voir qui déferlerait. La Russie, ils viennent de réouvrir comme faisait Wagner, il y a 200 000 prisonniers, des criminels de droit commun on va chercher dans les prisons, et on leur dit si vous vous battez 3 mois en Ukraine, ils n'ont rien à perdre, les gars, ils y vont avec des couteaux dans les dents, et ils sont prêts à organiser le viol de l'Ukraine. C'est épouvantable.
J'ai juste un instant sur le vote américain, parce que c'est intéressant de comprendre pourquoi ça a basculé comme ça. Le patron conservateur de la Chambre des représentants, Mike Johnson, avance cette justification, il dit je préfère envoyer des munitions à l'Ukraine, qu'envoyer nos garçons se battre.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est la position de Trump, parce que ce qui est quand même assez frappant dans cette affaire, c'est que Trump, aujourd'hui, donne le sentiment, finalement, d'avoir donné quitus à ce vote. Parce que, tout simplement, il se projette dans les résultats de l'élection, enfin, dans l'élection présidentielle, où il ne veut pas, enfin, c'est ce qui est interprété, en tout cas, c'est qu'une rupture du front, une rupture du front ukrainien et une déferlante russe en Ukraine, risquerait quand même de créer un choc, y compris dans l'opinion publique américaine. Donc, il peut aussi considérer que, si vous voulez, il ne faut pas qu'il porte la responsabilité aussi par son opposition à l'aide à l'Ukraine de cette rupture de front du fait du manque d'aide. Donc c'est aussi une hypothèse qu'il ne faut pas totalement exclure dans le calcul de Trump.
Et puis c'est un programme.
Il craint que ça lui soit reproché. Il peut, puisqu'après ouais. tout,
vous savez, Trump considère,
il a assumé cette position.
Trump considère vraisemblablement qu'il a été battu surtout sur sa gestion du Covid. Rappelez-vous notamment, parce que avant le Covid, il était donné gagnant face à Biden. Et là, en l'occurrence, manifestement, il doit considérer que la situation en Ukraine peut aussi nuire, en effet, à un moment donné, à sa potentielle victoire.
Mais il y a aussi un contexte global qui est un contexte de réarmement, avec des risques de conflits très importants aussi pour les États-Unis. Dans cette enveloppe budgétaire, il y a une partie qui concerne de la fabrication d'armement américain, oui. de la fabrication, 23 milliards de dollars quand même. Donc une partie importante de fabrication, et en fait, les forces de renseignement, etc., ont parlé avec les représentants du Congrès pour obtenir, en disant, mais là, il faut absolument qu'on se remette à produire, parce que nous n'avons plus de stock, à produire pour l'Ukraine et pour nous. Et on voit que dans cette enveloppe que vient de voter le Congrès, il y a à la fois l'Ukraine, mais il y a aussi Israël et il y a aussi Taïwan. Pourquoi ? Parce que c'est quelque part des fronts d'une guerre qui est un axe Russie-Iran. Chine, qui est un axe aujourd'hui un axe ennemi pour les États-Unis. Et donc c'est des guerres défensives. Enfin, en tout cas, ils aident des pays à tenir devant ce qui est en face d'eux un arc ennemi. Donc c'est aussi une stratégie globale. Bien sûr, il y a l'Ukraine, et d'ailleurs ils ont dit nous ferons un choix historique, nous ferons un choix que l'histoire considérera comme juste. Donc bien sûr, ils veulent s'inscrire dans on fait le bon choix, mais c'est un choix aussi global de réarmement face à un risque perçu de ce nouvel axe.
20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
François Reynard est là pour l'Obs, le nouvel Obs. Patrice Moyon pour Ouest France. Cécilia Guébison pour ETJ, OTX, dit décidément, à Magellan. Et Arnaud Benedetti pour la revue politique et parlementaire. Francis Moyon, Patrice Moyon, waouh. l'électorat Trump, enfin, ou en tout cas la bascule de la Chambre du Congrès, vous l'attribuez quoi ?
Il y a deux choses peut-être qu'il faut prendre en considération. C'est un, le lobbying qui a été exercé ces dernières semaines par toute la communauté d'origine ukrainienne qui est très présente aux États-Unis, donc avec du lobbying exercé sur les sénateurs et les représentants. Ça, c'est ce
et
que
qui
les...
a fini par payer.
Qui a fini par payer. Alors, oui. Et il y a un autre élément, c'est le poids de ce que Eisenhower appelait le complexe militaro-industriel, l'industrie de l'armement américaine. Les Américains sont quand même les grands gagnants de cette guerre, à la fois sur l'énergie et sur l'industrie de l'armement. Donc ça aussi, ça pèse. Des représentants ou des sénateurs américains.
Et quand on s'interrogeait sur l'électorat Trump, ça, pour le coup, il sera sensible à ça, François Reynard.
Je suis pas sûr que la base Trumpiste, ils sont pas sensibles à grand chose de rationnel. Et lui, il est très omnubilé par ses procès là pour l'instant. Et puis par ailleurs, Trump, c'est l'homme qui vit le monde en deal. Il vit le monde comme un type qui vend des voitures. Donc là, peut-être que son rêve, c'est que le front soit stabilisé, qu'il arrive au pouvoir. Et dès qu'il sera au pouvoir,
ce qu'il réglera ça en 24 heures.
Il ira voir Poutine et il dit, moi, je vais vous régler ça en 24 heures. Mmh. Et c'est-à-dire qu'il va faire un cadeau à Poutine en lui donnant un tiers de l'Ukraine pour permettre à Poutine de se réarmer et de préparer la guerre prochaine. Donc, et de la même manière, là, on parlait tout à l'heure, Cécilia Gabizon parlait de l'aide à Israël. Là, les Israéliens peuvent se faire du souci aussi, parce qu'il y en a beaucoup dans la droite israélienne qui parient sur Trump en disant, lui, au moins, il nous aime, lui, il va nous soutenir. Trump ne soutient personne. Trump n'aime que lui-même, il peut très bien arriver au pouvoir et lâcher Israël le lendemain. Il faut avoir ça en tête. Il y a quand même une part d'irrationnel chez cet homme-là qui est évidente.
De la même façon, ce qu'il ferait vis-à-vis de l'Ukraine en cas de la Russie.
Je pense qu'il fera ce qu'il appellera un deal, c'est-à-dire un accord dont il sera la dupe, c'est-à-dire un accord qui favorisera Poutine. Il fera cadeau des deux tiers de l'Ukraine à Poutine en disant bah oui, ça c'est chez vous, il y a pas de problème, etc. Et il dira, voyez, je suis le peacemaker mondial, l'homme qui a fait la paix. Et évidemment, les Ukrainiens seront fait avoir. Enfin, je pense.
Patrice Moyon ?
Alors, il y a aussi un défi pour les Européens parce que ils savent que de toute façon, demain, ils vont devoir reconstruire une véritable industrie de la défense. Ils ne peuvent plus prendre le risque de se retrouver désarçonnés par un choix à un moment ou à un autre.
Et maintenant que les Américains, ils sont finalement allés, là, ils ne peuvent plus faire marche arrière, quoi.
peuvent plus faire marche arrière, mais il faut peut-être pour les Européens profiter du temps qui est offert pour anticiper et construire notamment une industrie européenne de la défense.
Patrice Moyon, vous qui êtes allé plusieurs fois en Ukraine depuis le début de cette guerre, quand je disais ouf de soulagement, j'imagine que vous allez valider cette hypothèse du ouf, mais est-ce que réellement c'est quelque chose qui peut sauver l'Ukraine
Je pense que ça peut permettre à l'Ukraine de tenir, parce que là, je parlais tout à l'heure du risque de basculement, il était bien là. Ça va permettre à l'Ukraine de souffler, parce qu'il faut voir que les Russes, notamment actuellement, visent toutes les infrastructures énergétiques. La situation dans certaines villes est devenue extrêmement difficile. Je pense à Kharkiv, je pense à Odessa. L'Ukraine n'est pas sauvée, mais l'Ukraine peut respirer.
61 milliards, l'enveloppe qui a été votée, là, ça permet de tenir combien de temps, on sait ça ?
À ça, je ne peux pas vous répondre.
Et puis surtout, des armements plus lourds qui permettent, grosso modo, des canons, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui permettent de taper derrière les lignes russes. C'est-à-dire que ça permet de...
Ça modifie.
Donc, voilà. Parce que là, il faut voir quelque chose, c'est que du côté russe, il n'y a aucune économie en hommes, ils s'en foutent. Il y a des centaines de milliers de morts. Ils envoient il y a une espèce de folie sacrificielle qu'il n'y a pas du côté ukrainien, qui est un pays plus démocratique, où on a un peu plus le respect de des vies humaines. Là, il n'y en a pas de l'autre côté. Donc c'est ça qui est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut absolument les aider. Quoi.
Les Russes ont une grande habitude et une grande tradition des guerres longues. C'est ce qui fait leur force en général.
Et des guerres longues avec un coût humain illimité. Oui. Ils s'en foutent.
Mais on voit que dans le paquet d'aide, les millions là, qui ont été votés pour l'Ukraine par le Congrès, en fait, il y a aussi une partie.
On va dire milliards même.
Milliards, pardon. Il y a une partie renseignement très importante en montant. Et en fait, là, aujourd'hui, tout le renseignement est dominé par les Américains. Et c'est essentiel dans cette guerre parce que c'est un Ukrainien pour 10 soldats russes. Donc le rapport de nombre. Donc c'est une guerre aussi technologique. Il y a des munitions, mais c'est une guerre technologique, c'est une guerre du renseignement. Donc il y a plusieurs volets pour que les Ukrainiens puissent tenir. Et le premier, c'est évidemment pour épargner des vies, parce que les Ukrainiens ont déjà payé un très lourd tribut et aujourd'hui ils ont vraiment une question dans cette guerre de pouvoir continuer à tenir en épargnant les hommes.
Il y en a un dont on n'a pas parlé, c'est Joe Biden. C'est quand même une sacrée victoire et qui s'ajoute à un bilan qui est quand même assez impressionnant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais...
C'est sûr qu'on a tous en tête le face-à-face, donc il est vite vu pour les gens qui sont une nature démocratique, hein. Ils ont choisi Biden contre Trump, et effectivement c'est quelqu'un qui c'est étonnant, parce que même dans l'image c'est quelqu'un qui donne l'apparence de la fragilité du vieillard, et en fait il y a quelque chose d'une solidité et d'une ténacité. Faut quand même avoir les nerfs pour tenir tout ça quand même. Et cette ténacité, ça fait des semaines qu'il espère que tout ça doit se passer, de faire passer ce paquet là au Congrès. Tout ça doit se passer par des transactions parlementaires qui doivent être des réunions qui n'en finissent plus, etc. Bon, voilà, il tient le coup quand même.
Le Nouvel Obs, ça a fait sa une cette semaine sur...
Alors un autre Américain, mais français, qui est Omar Sy. Donc il vit aux États-Unis. Mais il y a un livre d'une journaliste du Nouvel Obs qui s'appelle Elsa Vigoureux, qui l'a rencontré, qui fait un livre, voilà, dans lequel il se livre. Donc il y a tout. Si vous voulez tout savoir sur Omar Sy, vous pouvez acheter le Nouvel Obs.
À la une du Nouvel Obs cette semaine. Patrice Moyon, Ouest France.
Faut-il rouvrir des mines pour être capable d'assumer la transition énergétique et climatique ?
On est quoi, sur le charbon, c'est ça ?
Les mines de lithium, par exemple.
De lithium aussi, bien sûr. ETX Magellan nous propose ?
Dans un autre registre, le podcast, une biographie inédite sur Céline Dion, où on va apprendre plein de choses.
Et je rappelle le titre de votre livre.
Tu m'aimes encore.
Arnaud Benedetti, aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, c'est aux éditions Michel Lafon. Merci à tous, les informés. Demain, à 9h, les informés du matin avec Salia Braclia et Renaud Delier. Nous, on sera là dès 20h. Bonne soirée.